Pop-opienne, et tous les autres aussi, bonjour. C'est une semaine pas comme les autres qui s'ouvre devant nous, et cela pour deux raisons dont chacun pourra mesurer l'importance. D'abord, c'est la dernière semaine de la saison 4 de Pop-op-op, et ce n'est pas sans une certaine émotion, bien que passablement sur les rotules, pour ne pas dire sur les rotules tout court, que nous attaquons cette dernière ligne droite. Mais ensuite, et surtout, je serais tenté de dire surtout, oui, parce que nous avons décidé de placer cette semaine sous la houlette, avec un H, comme dans Arthur, du seul monarque auquel nous reconnaissons un semblant de légitimité, le roi Arthur. Alexandre Astier pour l'état civil, dont s'apprête à sortir sur grand écran les très attendues aventures cinématographiques. Enfin, quand je dis s'apprête, il faudra quand même poireauter encore jusqu'au 21 juillet, mais vu que ça fait déjà presque un an que les fans rongent leurs freins, on se dit qu'il y va de notre sécurité à tous. Oui, Pop-op-op se rallie donc officiellement à la cause Kaamelott et à sa bienveillante majesté, aux talents si multiples que même les bras de Vishnu, bien plus nombreux pourtant que ceux du Pégu ordinaire, ne suffiraient à les dénombrer. Écriture, musique, réalisation, jeu, montage, salon scène, paternité multiple, triomphe au régional et sa liaison fumée, ce diable d'homme est partout. Il sera toute la semaine présent dans Pop-op-op. Alors résonnez trompette. Pop-op-op en ce lundi 28 juin d'une semaine qui démarre en fanfare. C'est parti.
France Inter. Pop-op-op.
Oui, alors les trompettes de Kaamelott sur le générique de Pop-op-op, moi je dis c'est bien, peut-être un peu confus pour l'auditeur, je pense notamment à celui en train de faire de tourner autour d'un rond-point, hein, et qui surpris va peut-être rater la bretelle, c'est un exemple, mais enfin bon, c'est une observation.
Oui, parmi tant d'autres finalement.
Juste pour ouvrir cette émission. À mes côtés, celle qui ne rate jamais une bretelle sur toute autoroute. Bonjour Charlie.
Qui les rate toutes, j'ai pas le permis, je vous le rappelle. Bonjour Antoine.
Et bonjour Alexandre Astier.
Et bonjour Antoine, bonjour Charline.
Merci de venir passer cette semaine royale en notre compagnie. À vos côtés, Alexandre, le roi Lot dans la série Kaamelott dont nous allons parler aujourd'hui. Un Lot à l'arboricaine, oserais-je, puisqu'il est question de Bretagne. Bonjour François Rollin.
Bonjour Antoine.
Ça démarre très fort. Mais avant de parler...
Oui, moi, j'ai des formules comme ça qui percutent.
Mais avant de parler de la série, j'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué parmi les pop événements, alors non pas de ces dernières 24 heures, mais parmi les pop événements de Kaamelott. Est-ce ?
Ouais, c'est pas faux.
Cette réplique cultissime lâchée par Audrey Fleurot dans la série HPI sur TF1, un clin d'œil qui a mis les fans de Kaamelott en ébullition.
Où est-ce ? Mathilda Jones, cette fillette âgée de 7 ans qui a presque fait revivre la légende d'Excalibur, elle a retrouvé l'épée royale exactement là où le récit l'avait laissée, soit dans un lac à l'eau glacée. Toutefois, cette épée de 1m20 sortie du lac par la jeune fille laisse son père sceptique, hein, puisque selon lui, ce ne serait qu'un accessoire de cinéma.
Ou bien est-ce le saviez-vous, pardon.
Le saviez-vous.
Voilà, le saviez-vous, c'est mieux comme ça. Alors le saviez-vous, Kaamelott et South Park ont un point commun. Les épisodes des deux séries étaient rendus au dernier moment au diffuseur, hein, le saviez-vous, enseigné par votre propre mère, Alexandre Astier, qui joue le rôle, je le rappelle, de Dame Célie. Alors, quelle info retenez-vous tous les deux parmi ces trois propositions ?
Faut qu'on retienne la même ?
Non, pas du tout, au contraire. Au contraire.
Dis-toi.
Non, vu le boulot qui a été fait, c'est vrai que c'est mieux qu'on retienne une chacun, parce que sinon Antoine, il a bossé pour rien.
Oui, c'est vrai qu'il en reste deux à la poubelle, ouais, ça fait un peu cher le truc.
C'est la première, hein, y a pas de doute, c'est la première, elle me sert tous les jours. Il y a une profondeur, il y a une...
Mais c'est pas
dans
faux.
Dans le fameux c'est pas faux. Donc ouais, c'est pas faux, vous le replacez à la première occasion.
Mais c'est aussi, ça dit aussi évidemment toute la sympathie que j'ai pour Franck Pithiot et alias Perceval. Et je suis pas seul dans ce cas, donc c'est un personnage absolument formidable.
Provençal, vous voulez dire ? Pardon.
Ouais, ça lui arrive.
Bon, puisque le c'est pas faux a été pris, il vous reste deux possibilités ?
J'aime bien, je savais pas que South Park s'était rendu au dernier moment aussi.
Dernier moment, oui.
Au diffuseur.
Oui.
Moi, il y a vraiment des épisodes qui sont partis à cul de scooter et qui ont failli jamais être
la diffusion parfois.
Alors, non, absolument. Mais je sais pas, c'est une précarité qui finit par me convenir. J'ai l'impression que je vais la garder.
Voilà. Bon, et puis on laisse l'épée dans l'eau, hein, cette épée mystère dont on ne saura.
1m20 ?
Oui, 1m20.
Mais l'Excalibur de Kaamelott est très petite, c'est une épée de femme, en fait. Ce que les gens ne savent pas, c'est une épée de femme.
Mais 1m20, c'est déjà pas mal pour une épée, non ?
C'est pas énorme, non.
Non, c'est pas énorme.
Bah, ça dépend comment. Enfin, bon, on
va pas sortir d'un lac pour une fillette de 7 ans, c'est pas mal quand même, déjà une épée d'un mètre 20.
Oui, bon, ok, bah, très bien. Alors voilà pour les infos du jour. La pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de ce premier numéro de cette semaine spéciale Kaamelott, juste après So May We Start. C'est un morceau des Sparks qui viendront nous rendre visite jeudi. One, two, three, four.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
So May We Start, les Sparks avec Marion Cotillard et Adam Driver, c'est chic. Et ce qui est encore plus chic, c'est que les Sparks seront au micro de Pop jeudi pour causer cinéma et découvrir Kaamelott. Mais Kaamelott, qu'est-ce que c'est ? Charline, imaginons un individu congelé façon Hibernatus qui ignorerait jusqu'à l'existence du phénomène Kaamelott. Quel genre de portrait pourriez-vous en faire pour lui rafraîchir, enfin lui réchauffer la mémoire ? Alors oui, c'est un pop portrait, mais c'est un portrait... Mais à base de... Joey Star et Cool Chain, mais aujourd'hui c'est un portrait à base de... Eh oui, c'est toujours signé Charlie. Oh.
Aujourd'hui, nous parlons d'une série à univers étendu qui n'a rien à envier au Game of Thrones et autres seigneurs qui aiment être bagués. Vous noterez que j'articule et marque les liaisons que j'éviterai de rendre dangereuses puisque je fais mon exposé devant le créateur et souverain ainsi que devant une éminence de la correction grammaticale et orthographique, un docteur S-lettres et rigolade, le professeur Rollin, grandiloquent roi Lot d'Orcani qui sévit dans la série. Dont je vais vous rappeler le point de départ, 5e siècle, île de Bretagne. Bretagne, alors que l'Empire romain s'effondre, le royaume de l'Ogre s'organise autour de son roi, Arthur, installé au château de Camelot, entouré de sa famille drôlement recomposée et d'une ribambelle non contradictoire de chevaliers. Ouais, c'est des chevaliers. Car ils ont une mission divine à accomplir, trouver le Graal. Et vous pouvez être sûr que si Joseph d'Arimathie n'a pas été trop con, le Graal, c'est un bocal à anchois. Une quête à laquelle vont se greffer bon nombre d'intrigues et aventures sur 6 saisons, enfin 6 livres, 458 épisodes, mais enfin les chiffres, c'est pas une science exacte, figurez-vous. De vraies aventures traitées avec le sérieux qui leur est dû, oscillant entre humour ravageur, science de la chute comme rarement on a vu et entendu, et héros, parfois ombrageux à la destinée, potentiellement tragique. Bref, un endroit dont je ne sais pas s'il fait bon y vivre, mais que je visite toujours avec un plaisir immense. Et si vous n'avez rien compris à mon propos et mon engouement, sachez que c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont con.
Portrait royal validé par le roi lui-même.
C'est très joli, c'est très très joli. C'est un des meilleurs qui a été fait, si ce n'est le meilleur. Après, est-ce qu'il fait bon vivre à Camelot ? Je ne crois pas. Parce qu'en fait, tout est basé sur le fait qu'Arthur vivait très bien quand il était jeune à Rome, ouais. Et que c'est le fait de faire ce trajet-là qui le plonge dans un monde qui est bien plus froid, bien plus ténébreux, bien plus réac que de là d'où il vient.
Portrait validé par l'autre roi présent à cette table, le roi Lot.
C'est-à-dire, je suis en train d'y réfléchir. Je me demande si on ne va pas monter un petit groupe pour s'opposer à ce résumé. Il faut que je voie ça avec mon Dagonet.
Qui est tout à fait à votre disposition et partant comme d'habitude. François Rollin, Alexandre Astier, aujourd'hui nous allons donc parler de Camelot, la série. Une série créée par vous, Alexandre, avec Alain Capoff au début, et diffusée entre 2005 et 2009 sur M6. Rappelez-vous, le premier épisode commençait comme ça.
Bon, je vais essayer de trouver un petit lièvre pour ce soir, parce qu'il commence à faire faim.
Je me demande comment vous faites. Moi, je serais incapable de trouver de quoi manger dans la forêt.
Pour attraper des bêtes, il faut imiter les femelles. Là, pour le coup, hop, la femelle lièvre.
La hase.
De quoi ?
La femelle lièvre, c'est la hase.
Non, moi, je connais que le cri.
Ça rappelle des bons souvenirs, tout ça.
Ah, mais c'était à ce point con. Et vous dites rien, vous le diffusez en direct aux Français qui n'ont pas mérité ça.
Je fais œuvre d'historien. Mais sincèrement, est-ce que vous pensiez que cette série se déroulerait sur 6 saisons télé pour finir par se retrouver le 21 juillet 21 sur un grand écran après une pandémie mondiale ? Honnêtement, au début, quand c'est parti.
Ah bah, quand on se souvient comment ça a démarré, non. Non, normalement, tout aurait dû s'effondrer. Je sais pas, ça, c'est vrai que ça a pris. Et c'est vrai que ça a pris vite. Et la preuve en est que si ça avait pas pris vite, on serait pas resté. Hein, tout simplement, c'est une heure, le 20h40 est une heure terriblement guerrière à la télévision. C'est soit vous êtes regardé, soit vous pouvez pas rester.
Et comme je vous connais, Alexandre, vous aviez déjà en tête le plan, l'arche générale de toute cette histoire qu'en auriez-vous fait ?
Ben, je sais pas. Mais enfin bon, vous savez, si les gens vous disent on n'en veut pas, on le remet dans sa poche, hein, c'est pas très grave. Mais là, ils en voulaient, donc c'est très agréable parce que du coup, c'est pas simple, c'est une saga. Voilà, il y a peu d'auteurs qui ont la chance de pouvoir connaître dans leur vie la responsabilité, l'écriture d'une saga. C'est vraiment très fun à écrire une saga.
Ouais. Mais il faut dire au passage que le Camelot, le succès de Camelot, comme tous les énormes succès de la télévision, c'est un accident que la télévision n'avait pas prévu. C'est-à-dire que la télévision s'était dit, si j'ai bonne mémoire, bah Camelot, non, ce truc, c'est le Moyen-Âge, c'est de l'humour anglais, c'est en costume, ça marchera pas, on va mettre ça 3 semaines en attendant de mettre un truc vraiment rigolo comme Caméra Café. Donc c'est par accident, tout d'un coup, ça leur... Mais de la même façon, les Shadocks, c'était un accident, Palace, c'est un accident, la Minute de Cyclopède, c'est un accident, toutes les choses vraiment fortes, énormes, et désormais cultes qui sont à la télévision, se sont faites, pardon pour eux, un peu contre ou malgré.
En tout cas, n'avaient pas été marketés, pensés.
Oh là là, non, même bien au contraire. On avait dit, vous savez, on a de très bonnes raisons de penser que ça ne marchera pas.
Et Alexandre Astier, pour présenter la série à M6, soit le diffuseur, vous êtes arrivé avec un court-métrage qui fait donc figure de matrice. Est-ce que tous les éléments y étaient déjà plus ou moins ? Et est-ce que c'est un court-métrage que vous avez revu au fil des années?
Oui, je l'ai revu. Alors, il est.
Je le repasse en boucle tous les soirs.
C'est ça. Non, mais c'est intéressant.
Non, mais un court-métrage, quand vous faites un court-métrage et que vous êtes un jeune garçon qui veut faire des films, je veux dire, le truc est censé se tenir en lui-même. Il n'est pas censé avoir de suite. Il est censé avoir une vie de festival. Voilà. Et puis après, effectivement, ce truc, il avait peut-être, parce que c'était la mode aussi du programme court, comme on disait. Donc, tout le monde en voulait plus ou moins. Il y avait Caméra Café qui s'arrêtait. C'est vrai que si je m'étais pointé n'importe où, avec une Bible ou une proposition papier de ce truc-là, ça n'aurait eu absolument aucun impact, ça ne s'explique pas. Il faut que les acteurs le prennent en charge, il faut que ça soit joué. Donc voilà, il y avait ce court-métrage qui existait et qui a probablement crédité un peu le truc. Et d'ailleurs, monsieur de Caunes, vous savez que vous avez été parmi les premiers à le voir, ce truc-là.
Je m'en souviens très bien, c'est au Festival of Court à Trouville.
À Trouville, oui, absolument.
Qui vous avait primé. Voilà, oui. Je m'en souviens comme si c'était hier.
C'était hier.
Un peu avant-hier quand même. Alors Kaamelott, c'est donc 6 saisons, 458 épisodes et 36 heures si on veut tout regarder. Quel conseil à un jeune auditeur qui nous écoute en ce moment en disant « Tiens, ça a l'air chouette, je vais me faire les 36 heures d'un coup » pour respecter absolument la chronologie ?
Ah, non, mon premier conseil, c'est ne faites pas ça. Ne regardez pas ça. Épargnez-vous ça s'il en est encore temps. Faites autre chose. Allez dans la nature, essayez de reconnaître les champignons. Enfin, quelque chose qui soit... Non, François ?
C'est pas faux.
Voilà.
Bon, ça vient d'être en plus réédité, une somptueuse édition Blu-ray avec plein de suppléments.
Oui, oui, si vous voulez vous faire le truc,
on peut.
Ouais, plutôt DVD, ouais, plutôt le format DVD, parce qu'il traîne des faux formats, notamment pour la 5, il faut voir celui de DVD Blu-ray, parce que c'est celui qui est vraiment Director's Cut, celui-là, et qui n'a pas souffert de la diffusion de l'époque.
Et puis, s'il faut répondre un tout petit François. Peu sérieusement, bien que c'est Alexandre qui est le grand chef de tout ça, mais ces épisodes, ils ont été conçus pour être consommés, chaque jour. Mmh. Eh ben, c'est pas une très bonne idée, à mon avis, moi, quand je vois maintenant des rediffusions, d'en accumuler 26. Non, au bout d'un moment, la musique commence à ronronner dans la tête, alors qu'un chaque jour, c'était parfait. Mmh. Donc, on peut accélérer un peu la consommation pour les sessions de rattrapage, mais c'est quand même pas un truc qui est fait pour être enquillé comme ça.
Bah, ça fait combien d'ici le film ? Si jamais le gars, par exemple...
Ça fait 24 jours.
36 heures, ça fait.
Oui, mais tant que j'ai un peu plus, parce que j'en ai un peu mis de rab, comme on dit chez le moucher, il y a un peu plus.
Ça nous fait un petit 2 heures par jour.
Ah ouais.
Si c'est le 21 juillet.
Ouais, non, on n'est pas dans la proposition de François, du coup, non. 2 heures par jour, non.
Et alors, dans la série, vous vous intéressez à la partie de la légende que finalement le plus grand nombre connaît, soit la table, la quête, le triangle amoureux. Est-ce que c'était par souci d'installer le décalage presque plus facilement ?
Oui, mais ça aurait été pareil pour, je veux dire, par exemple, si vous voulez vous lancer dans Goldorak, qui est un autre héros à moi. Si jamais on avait voulu faire un truc sur Goldorak. Goldorak, il ne faut pas vous attendre à ce que tout le monde connaisse le fond, la forme, l'histoire, le background de Goldorak. Vous êtes obligé de vous attacher quand même, au moins dans un premier temps, dans ce que tout le monde en sait, c'est-à-dire la tronche qu'il a, le fait que quelqu'un lui rentre dans la tête pour le conduire. voilà, pas beaucoup plus que ça, quoi, finalement. Mm-hmm. Ben, c'était pareil, là, en fait. Je ne sais pas où se situe le niveau de connaissance de la geste arthurienne de monsieur et madame tout le monde, mais... Mm-hmm. On peut au moins compter sur l'épée, la table ronde, le rocher, l'élu, le triangle amoureux, la rivalité Lancelot, Guenièvre, pas tant plus que ça.
Hein. Il faut savoir qu'il s'agit d'une série qui est toujours diffusée, tous les jours, entre 3h35, pendant 3h35, entre 10h et 13h35 sur Paris Première, et tous les lundis soirs à partir de 21h sur la chaîne 6 Terre. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle longévité ? Tiens, là je m'adresse au professeur Rollin, qui a souvent un avis sur beaucoup de choses.
Parce que c'est super chouette. Hein. Moi, je voudrais rappeler à nos auditeurs qui ne le savent pas comment je suis arrivé dans Kaamelott.
Rappelez-nous.
C'est moi qui
n'ai.
C'est d'ailleurs la seule série que j'ai regardée dans ma vie. C'est-à-dire. vraiment. Hein, je suis totalement exceptionnel. Je raconterai tout à l'heure une autre histoire qui me rend honteux et exceptionnel à la fois. Que j'ai vécu avec vous et avec Alexandre, mais c'est la seule série que j'ai regardée, et j'ai vu par hasard un épisode, et dans lequel j'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est rigolo, oh là là, je devrais regarder plus la télé, moi, il y a des trucs vraiment vachement chouettes, et coup de chance, à 1 minute 15, je vois surgir un bonhomme que je connais, Serge Papagali, mon vieux copain Serge Papagali, les paysans, je décroche mon téléphone et j'appelle Serge Papagali, je dis, écoute, je connais pas tout ce truc-là, dis aux gens qui font ça que c'est quand ils veulent, comme ils veulent. Et quelques jours après, Alexandre m'a contacté et c'est comme ça que je suis venu roi Lotte.
Très bien. Donc en fait, Alexandre, on vous appelle en disant c'est quand vous voulez, où vous voulez.
Si c'est Rollin, oui.
Ah, si c'est Rollin, oui.
Ah bah non,
oui. Ah bah oui.
Les demandes risquent d'être un peu nombreuses.
Précisons-le.
C'est le temps boucadé.
Si vous vous appelez Rollin François et que vous avez mon numéro, vous pouvez tenter votre coup.
Il y a déjà une petite barrière. Les personnages de Kaamelott sont de fait presque devenus des rockstars. On connaît les dialogues comme on chanterait des refrains. Ça vous fait quoi quand vous entendez des répliques que vous avez écrites répétées à l'envi par d'autres gens.
C'est très agréable, évidemment, bien entendu, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est vachement agréable d'être connu pour un truc de langue, en fait. Parce que j'essaye quand même d'écrire pour les comédiens, j'essaye qu'ils soient bien chez moi, j'essaye qu'ils soient tout cocoon, avec des répliques qui leur plaisent, qu'ils aient envie de faire ce qu'ils disent, et je trouve que, voilà, je suis très fier que les gens, que le premier accès à Kaamelott, ce soit la langue. Parce qu'il y en a plusieurs des langues, selon les personnages, il y en a qui parlent un peu... Il y en a qui sont un peu vaudeville, il y en a qui sont labichiens, il y en a qui sont un peu, il y en a qui sont plus modernes.
Il y en a qui parlent latin.
Il y en a qui parlent latin. Mais voilà, je suis évidemment très fier que ce soit la première chose que les gens retiennent.
Mmh. Alexandre Astier, François Rollin, ce premier pop-up de cette semaine spéciale continue juste après une petite pause musicale avec un autre Arthur, c'est Arthur Lee. Everybody's gotta leave.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live. I think you know the reason why. Sometimes the going gets so good, then again it gets pretty rough. But when I have you in my arms, baby, you know I just can't get enough. Oh yeah. Everybody's gotta live.
Yes they do.
And everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why.
I saw a blind man standing on a corner yesterday, baby. He couldn't hardly tie his shoes, but he had a harmonica and a guitar strapped around his neck, and he sure could play the blues. Oh yeah.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody try to have a good time. I think you know the reason why. I feel like I've seen just about a million sunsets. She said, if you're with me, I'll never go away. That's when I stopped and I took another look at my baby. She said, if you're with me, I'll never go away. Because everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Before you know the reason why.
I had a dream the other night, baby. I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, and I was surrounded by 50 million strong. Oh yeah.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Before you know the reason why.
Yeah.
Everybody's gotta live, and everybody's gonna die. Everybody's gotta live.
You gotta live
before you know the reason why.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Allez, Charlina. Oh, vous écoutez Pop, 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 et nous parlons aujourd'hui, mais pendant toute la semaine, nous allons en parler de Kaamelott, un film très attendu le 21 juillet. Alexandre Astier sera notre invité tous les jours dans cette émission. Et aujourd'hui, nous nous consacrons spécialement à la série, en compagnie de François Rollin. Dites-moi, mes amis, Maurice Leblanc se plaignait d'être prisonnier de son Arsène Lupin, Frédéric Dard de son San Antonio, François Rollin de son professeur. Mais vous n'êtes pas prêt d'en sortir avec deux autres volets ciné annoncés. Quand est-ce que vous imaginez la fin de ce marathon, Alexandre ?
Déjà, je suis pas persuadé d'arriver au bout, vous savez. Ah, mais on ne sait pas.
On ne sait jamais. Après des accidents de la vie, oui, bien sûr. Mais voilà. Restons confiants.
Je ne sais pas, je me suis toujours dit que je devais faire Kaamelott sur un rail et autre chose sur l'autre rail. Et que ça devait toujours... Voilà. Déjà parce que c'est très agréable de laisser passer le temps. C'est-à-dire que les gueules changent, les gens changent. Mmh. Et puis du coup, c'est pas... La saga évolue, pas avec du maquillage et genre le temps a passé. Non, le temps a passé. Mmh. Le vrai temps a passé. Ouais. Et du coup... Moi, je trouve que c'est très agréable à écrire comme ça, oui.
C'est votre côté Truffaut. Vous
croyez ?
C'est votre Douanel.
Ah, peut-être bien.
En plus, moi, j'ai des amis qui ne connaissent pas Kaamelott, mais qui connaissent Que ma joie demeure et l'exoconférence, pour qui Alexandre est un comédien de théâtre, un humoriste. Et Kaamelott, il dit, ben non, je ne regarde pas la télé, donc je sais pas ce que c'est.
Mmh. J'espère qu'ils iront au cinéma. Du coup,
Vous la connaissez, la fin? C'est la question qu'on a posée de manière récurrente au showrunner de Lost. Je vous la pose, la fin de Kaamelott, vous la connaissez, vous l'avez en tête?
Oui.
C'est tout.
Ok.
Ça peut être tâtonné, ça peut être évolutif.
Est-ce que vous avez un œil sur les courbes de l'audimat, là? Parce que le oui, c'est maigre comme, comme information. Mais...
C'est une information.
C'est une information.
Vous pourriez dire non. Je sais pas où je vais.
Si.
Vous pourriez avouer.
En parlant de l'audimat, quand est-ce que je raconte ma honte du tournage?
Je crois que le moment est venu.
Bon. Et ben donc, je vais tourner, le cœur léger, toujours avec l'enthousiasme, puisque c'est tellement agréable de tourner avec Alexandre, et au déjeuner, à midi, je suis à la même table avec Antoine, à une table, Alexandre n'est pas à cette table-là, il est à la table d'à côté, et il y a un monsieur qui me paraît extrêmement sympathique, qui parle anglais, alors je suis pas très bien à la conversation, j'arrive pas, mais d'après ce que je vois, ce que je sens, parce que je suis un mec sensible, je sens que ce type a représente quelque chose. Je ne sais pas du tout qui c'est, je le trouve formidablement sympathique. Et donc, c'est la vérité ce que je dis. Hein. Et donc, à un moment, je m'échappe près de la machine à café, je fais signe à Antoine, parce que j'ai dit c'est qui alors ce bonhomme tout ça. Et Antoine éclate de rire en disant arrête de te moquer de moi. Non, non, je me moque pas de toi, Antoine, je ne sais pas qui c'est. Il me dit c'est Sting. Et bon, pour moi, ça ne me fait même pas... Ça n'évoque rien de précis, mais je sais que c'est vraiment quelqu'un de très connu que je viens de ne pas reconnaître. Mais c'est très agréable comme sensation parce que c'est vous dire que ce bonhomme dont je ne connais ni les chansons ni rien du tout, tout ça, eh ben, j'étais juste en train de partager un repas de cantine avec lui et je l'ai trouvé délicieux. Et d'ailleurs, par la suite, dans le tournage, le peu qu'on a échangé, c'était vraiment comme un doux ami, comme un charme.
Bon, par ailleurs, un peu méconnaissable avec ce look étrange, imaginez. Hein.
Mais je note surtout que vous avez été très charitable sur ce coup-là, parce que vous auriez tout à fait pu donner un autre nom à François Rollin que celui de Sting.
J'aurais dû.
Bien dans vos habitudes.
J'étais retrait d'un seul coup. François Rollin, dans cette série, vous êtes donc le roi Lot. Charline, comment est-ce que vous décririez ce personnage?
C'est le roi d'Orcanie, le père du chevalier Gauvin, le mari d'Anna de Tintagel, dont il parle en des termes assez peu flatteurs. Il possède un anneau qui lui permet de faire des éclairs avec ses doigts et ce sont ses paroles qui le racontent le mieux, ouvrez les guillemets. Vous êtes ici chez les salopards, cet ennemi, on fomente, on renégate, on laisse libre cours à notre fantaisie. Bref, un type extrêmement sympatoche. Vous dites, Alexandre, avoir écrit Perceval à hauteur d'un môme de 10 ans. Quel est donc l'âge de conception de Lot?
Non, mais Lot, ce serait quand même terrible. Alors déjà, il n'a pas d'anneau. Il a l'éclair automatique avec les doigts. Ça n'est pas un anneau, premièrement. Et deuxièmement, il a un autre fils que le film lui affuble. Et c'est ah bah oui, mais moi j'ai le droit de spoiler.
C'est votre film,
Alexandre.
Voilà, donc on apprend qu'il a un Garrett que les gens ne connaissent pas encore, un Garrett d'Orcanie. Et puis du coup, écoutez, comment est-ce qu'on écrit Lot? On écrit un peu pour Rollin quand même. C'est le plus simple. Franchement, c'est le plus simple. Je dis pas que je le fais bien, mais j'essaye de faire de mon mieux. En tout cas, je le dis, je dirais pas s'il n'était pas là. C'est vos conversations à tous les deux et écrire pour François. Quand je vois sur mon papier que c'est ça qui me reste à faire, par exemple, je me dis ouais, c'est bon. Ça va très très vite. Je pourrais les tenir 2 heures chacun.
Remettons-nous en tête la petite musique de Lot, ça donne ça.
Oui, alors, pourquoi? Pourquoi trahir sans arrêt les gens avec qui je collabore? Je dirais que c'est probablement une réponse compulsive à une crainte de m'attacher. Briser une relation plutôt que la cultiver pour ne pas se retrouver démuni face au bonheur. Oui, pour répondre à votre question, j'ai peur d'aimer.
François Rollin en roilotte. Le roilotte est un éternel hypocrite, grandiloquent, une vraie saloperie. Mais comme Alexandre l'écrivait en pensant à vous, doit-on en déduire
oui, que je suis une vraie saloperie. Si ça vous arrange, ça, à mon âge, ça n'a plus d'importance. Mais je dois vous dire que je passe mon temps à dire aux fans qui me croisent et qui fans de la série et quelquefois fans de Lotte en particulier que non, je vous le répète, je vous le jure, je n'écris pas les dialogues de Lotte. Non, c'est mais me dites pas quand même ça vous ressemble tellement. Ben c'est le talent d'Alexandre, mais vous allez vous arranger un petit peu les trucs au dernier moment. Non, rien, je ne touche pas une virgule. C'est même ça tout le plaisir de travailler avec Alexandre, c'est que voilà, on lit le texte et puis il est déjà en bouche, il est parfait, on n'a surtout pas envie d'y changer un mot.
Mais c'est quoi le secret pour incarner un méchant mais pas trop? Un intrigant presque, plutôt.
Tout est dans le texte. Hein. Vous savez, au cinéma, c'est pour ça que le cinéma, je trouve, c'est follement facile, comme comédien, comme acteur. Ouais. C'est follement facile parce que, autant au théâtre, il faut envoyer des trucs qui sont pas tout à fait naturels, autant au cinéma, Jean-Yann, que j'adorais, m'avait donné un conseil qu'on a tourné ensemble, il m'avait dit « ne fais rien ». Voilà. Et effectivement, je pense que c'est un très bon conseil. Ne rien faire, il m'avait dit « moi, je comprends souvent même pas ce que je dis ». Parce que c'est la caméra qui vient chercher... D'abord, on a été recruté pour ça. La caméra vient, le chef-op vous fait une lumière et tout ça. Vous êtes déjà le personnage. Puis ensuite, le texte dit tout. Donc, moi, le roi Lotte, j'ai pas besoin de me demander, oui, mais au fond, pourquoi est-ce qu'il trahit et quelle est sa vraie relation? Non, tout ça, c'est dans la façon que Alexandra de le cadrer, de le monter, Et dans le texte, tout est là, quoi. Il n'y a plus qu'à prendre le chèque et.
Mais Alexandre, puisque vous écrivez, on peut même parler de surmesure, et considérant que Dagonet est un vrai con, est-ce que je dois en conclure? Je vous laisse terminer la phrase.
Non, mais si, moi, il y a un truc qui m'émeut beaucoup, je vais vous le dire, c'est les gens qui sont conscients de ce qu'ils sont. J'écris souvent des gens qui sont très lumineux et très clairs sur ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, vous, dans le film, bon, on va pas balancer les répliques, mais on peut en balancer une. Si on est, on n'est pas des gens de terrain. On n'est pas des cerveaux non plus. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est que le mec est conscient. François, quand il joue le roi Lotte et qui dit que il va trahir et que c'est un traître intrinsèque, un traître fondamental. Il le juge pas, il se juge pas comme ça. Il sait simplement que c'est sa nature. Voilà, c'est tout. Donc c'est facile à écrire ça aussi, parce que les gens qui sont conscients de ce qu'ils sont, c'est quand même royal.
Je vous ai dit que je vous trouvais éblouissant dans le. Pardon, c'est un détail. On le sait, la comédie est un art très sérieux. Qui plus est, quand on doit jouer des abrutis. Alors question à Dagonet et Lotte, quel genre de directeur d'acteur est Alexandre Astier?
C'est à moi que vous posez la question.
Oui, j'ai dit, c'est vous. Dagonet et Lotte, c'est vous. Oui, je vous pose des questions à tous les deux.
François, allez-y.
Alors, Alexandre. Comme genre, moi, je trouve que c'est le genre à vous trouer le cul. C'est-à-dire que c'est stupéfiant. J'ai quand même tourné pas beaucoup. J'ai pas beaucoup tourné. J'ai pas tourné de nombreuses fois, mais j'ai tourné avec beaucoup de gens différents. Et Alexandre, il est stupéfiant. D'abord parce que si quelqu'un ne sait pas que c'est lui le patron sur le plateau. Quand il a assisté à une journée de tournage, il le sait toujours pas, parce qu'il parle pas plus fort que les autres. Quand il a une recommandation, un conseil à donner, ça se fait tout discrètement, tout est dans le sourire. Donc c'est pas possible que ce soit le chef, puisqu'il est souriant tout le temps, puisqu'il est de bonne humeur tout le temps, ça peut pas être le chef. Et ensuite, effectivement, c'est une direction extrêmement douce. Il n'y a pas besoin d'une direction forte, parce que comme je l'ai dit, c'est écrit. Déjà, ça roule déjà tout seul. Mais c'est follement agréable d'être dirigé par quelqu'un qui n'éprouve pas le besoin de faire le numéro du réalisateur. Parce que souvent, quand j'ai souffert sur des tournages, c'est parce que le réalisateur se dit, a peur d'ailleurs de ne pas être un vrai réalisateur, et se dit, il faut que je fasse le numéro. Ouais, donc ça fait... Bon, écoute là, Antoine... on en est. Qu'est-ce qu'on fait là? Ben non. Alors on la reprend, mais bon, voilà. Alors comme ça on dit, oh, dis donc, c'est. Le patron,
j'essaie de savoir de qui il parle. J'arrive pas. C'est qui?
C'est un concentré.
Ah d'accord.
Plusieurs là-dedans. Oui,
voilà. Un medley.
C'est une synthèse. Moi je dirais qu'on a le sentiment d'être comme un cheval de course. avec un cavalier émérite sur le dos. Quelqu'un qui sait vous guider avec des indications très subtiles et qui a surtout la musique en tête, la partition complète de ce qu'il cherche à obtenir.
Mais qui n'hésiterait pas à vous mettre un petit coup d'éperon au besoin.
Bien sûr.
Ça, c'est amical. Attention, ouais,
donc ça reste amical, oui.
Non, j'ai jamais vu personne de malheureux sur ce tournage. Là aussi, je n'ai pas fait tous les épisodes. Mais sur plein de tournages que j'ai fait, il y a quand même quelqu'un qui se sent un peu, voilà, puis qui dit, ouais, t'as vu comment il m'a dit tout à l'heure, souvent c'est des femmes d'ailleurs, compris dans la gueule, quand c'est un réalisateur homme. Ça. Là, j'ai jamais vu quelqu'un de malheureux. Tout le monde est content d'être là, et tout le monde a raison d'être content d'être là, parce que il peut rien se passer de mauvais sur un tournage. Et je pense que le film va être un triomphe aussi à cause de ça. Aussi parce que Alexandre Astier est un type profondément bon, ainsi que tous les acteurs et actrices qui jouent dans ce film, à part moi, un bel enculé, mais sinon, ça va sûrement se ressentir. Il y a quelque chose de fort, de familial.
Bien. Merci, François. C'est émouvant d'entendre une chose pareille. Enfin, surtout quand ça s'appelle Alexandre Astier.
Mais Roland, bon, voilà, il s'est causé. Hein. Vous le faites venir. Mais, du coup, il cause. Il faut pas s'en plaindre. Voilà.
Je ne m'en étonne pas non plus. Bon, François, Roland, Alexandre Astier, petit pop break dans ce pop-up spécial pour écouter une pépite, un extrait de Zappa 88. C'était le dernier concert qu'il ait donné sur le sol américain. Ça s'appelle The Last US Show. Et c'était une version d'un morceau des Beatles. I'm the Walrus. Écoutez, c'est assez surprenant.
Singing Bloody Tuesday, man, you better not to boy, you let your face grow up. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, doo-doo-doo-doo. Mr. City Policeman sitting pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky, see how they run. Fish my pornographic priest is born. You really naughty girl, you let your knickers down. I am the Eggman, they are the Eggmen. I am the walrus, a go-go-go-go. The sun don't come and get a tan from standing in the English rain. Nice tan. I am the Eggman. They are the Eggman. I am the walrus. Go 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 go. Expert, expert, joking smokers. Don't you think the Joker laughs at you? See how they fly like pigs in a sty. See how they slide. Fibolina Pilchard, I'm in a big tower. The elementary penguin singing, oh, this is the man. You should have seen him kicking at the mallet ball. I am the Eggman, they are the Eggman. I am the walrus, go-go-go-go-go-go-go-go-go-go. A go-go-go-go-go-go-go.
À I am the walrus, version Frank Zappa, version live. C'était le 25 mars 88 au Nassau Coliseum de New York et ça vient juste de sortir. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Alors ce silence, c'est ce qui vous évoque la pop culture, François Rollin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît?
Oui, c'est toi qui as demandé ce jingle.
Je vais vous poser une question, Antoine. La défense nimzo-indienne, ça vous dit quelque chose?
La défense, pardon?
Nimzo-indienne.
Nimzo-indienne.
La défense aléquine, le gambit Black Mardi Meur, ça vous dit quelque chose?
Oui, bien sûr, oui.
Non, c'est pas vrai, ça vous dit
rien. Si, le gambit, c'est un...
Le gambit, le Black Mardi Meur, vous le connaissez?
Non, je le connais moins bien celui-là. C'est un mouvement d'échecs, je sais, mais je ne saurais pas vous dire avec précision.
Donc vous êtes passé quand même à peu près totalement à côté du jeu d'échecs, qui est tout un univers magnifique. Et ben moi...
À cause de la pop culture?
Non. Ah bon? À cause de je sais pas quoi, par hasard. Et ben moi, il se trouve que par hasard, je suis passé totalement à côté de la pop culture. C'est pour moi une terre totalement inconnue. Voilà, je connais normalement pas trop mal de choses, j'ai une culture relativement étendue et éclectique, mais la pop culture, ben non, je sais même pas ce que vous entendez par là. Alors si on me dit, il y a Antoine Decaune qui s'y intéresse beaucoup, ben comme j'aime bien Antoine Decaune, ouais, ça évoque quelque chose, mais ça va pas au-delà.
Non mais quand même, la pop culture c'est suffisamment vaste pour qu'il y ait des trucs de la pop culture qui t'aient pas échappé, je peux pas croire ça.
Alors donc les copains font le truc, ils me font d'abord la liste de toutes les séries en me disant, ça, t'as quand même regardé ça.
Non,
ils
bah
ont
non.
12 noms. À non. Friends, ils comprennent que non, j'ai jamais regardé une série et j'en regarderai jamais une. Et ensuite, ils prennent leur smartphone ou leur platine vinyle et ils me font écouter des morceaux en disant, ça, tu connais quand même. Non, 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 tu mens. Non, mon amoureuse confirme. Non, 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 il ne connaît pas. Enfin, YouTube, non, je ne connais pas. Non, non,
vous connaissez Sting maintenant?
Alors maintenant, je connais Steve.
L'avez-vous pour autant écouté sur album?
La réponse est non. Alors, poursuivons cette discussion.
La honte,
autour,
passe pour un vieux
autour
con.
Autour de la pop culture avec un peu moins de silence, c'est l'heure de votre pop liste croisée. Un livre, un film, une musique, un personnage de série, voilà de quoi nous allons parler autour de cette table ronde. Je me comprends. Pour le livre, François, vous avez choisi Fortune carrée de Joseph Kessel. C'est un roman d'aventure publié en 1932. Charline, la table ronde, la fortune carrée, la seconde ne rentre évidemment pas dans la première, mais bon, c'est le génial Kessel. Quelques détails, sans vous commander, bien sûr.
Bien sûr, un roman inspiré par son périple au Yémen, en mer Rouge, en Éthiopie-Somalie, lors duquel il fait la rencontre de l'aventureux écrivain Henri de Montfred. Le livre met en scène deux hommes, violents et sans attache, Akimov et le dit Henri de Montfred, tout dans un cadre absolument époustouflant.
François, auriez-vous la gentillesse de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît.
Oui, alors je veux dire une petite chose avant, quitte à bouleverser un peu le conducteur de l'émission, c'est que je n'ai pas osé choisir comme livre préféré mon dernier bouquin qui s'appelle « Suis-je bête ?», un bouquin sur la bêtise qui est paru aux éditions universitaires de France et qui est tellement formidable que la préface est d'Alexandre Astier. Ça veut dire qu'on est dans le...
J'allais le citer en fin d'émission.
Oh,
mais
c'est gentil.
Alors
maintenant, j'ai quand même un mot à vous dire sur Fortune carrée de Joseph Kessel, parce que ça, pour moi, effectivement, c'est un truc qui a éclairé ma vie. Évidemment, ça m'oblige à divulgâcher un tout petit peu ce chef-d'œuvre. Vous avez un héros qui est magnifique, qui arrive à combattre tout. Il se défend, il a des ennemis partout. C'est un guerrier, il échappe à tout. Et puis, vers la fin du bouquin, tout d'un coup, dans un campement, il y a un mec qui lui passe juste une connerie par la tête, et hop, il est mort. Et en 5 secondes, tout est fini. Et c'est toujours l'image que je me suis fait de la vie et qui m'a donné tant d'angoisse. Bon, là, le petit passage que je vais vous lire.
Lisez-moi quelques lignes.
Évidemment, il n'est pas mort, il va bien. Sanaa, au milieu de la coupe prodigieuse de pierre et de lave que ferment les djebels yéménites, se dresse isolée du monde et près du ciel. Flanquée de donjons ronds et pesants, cernée par d'épaisses enceintes crénelées, elle est vaste, solide, bâtie en force et tranquillité. Elle semble issue du sol même, toute posée dans sa force, sa fierté et sa sobre noblesse. Ainsi que le haut plateau qui la soutient, Sanaa apporte le sceau de la fable et de la vie en même temps.
Quelques lignes de Fortune carrée de Joseph Kessel.
De toute façon, Kessel, quelle plume fabuleuse.
François Rollin, oui, je vous conseille les mains du miracle. Les mains du miracle. Et vraiment, c'est le prochain Kessel, croyez-moi sur parole. Bon, passons au cinéma. Passons au cinéma avec vous, Alexandre Astier. Les vieux de la vieille de Gilles Grangier, 1960, c'est ça votre choix. faites une allusion à quoi quand vous choisissez les vieux de la vieille?
À
vous
rien.
Vous regardez comme ça.
Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant existé est purement fortuite, Antoine. Ne prenez pas à titre personnel.
De quoi ça parle?
Trois amis de genre facétieux qui quittent leur village pour s'installer dans une maison de retraite, mais qui finalement, au grand dam des habitants, décident de revenir au village.
Vous êtes qui?
Je viens de péter ma chaîne.
Oh, bah c'est pas étonnant, c'est une Zodiac.
C'est pour une bonne marque?
Bon, la pourriture, bah c'est comme votre vélo. D'abord, il n'y a qu'une de marque, c'est l'hirondelle. Le reste, c'est de la merde en tube. Là, votre clou, là, c'est de la série. Je suis sûr que ça a été monté par des Polonais. C'est pas bon pour me dire des étrangers, parce qu'il y en a qui s'y connaissent. Les Suisses, les Italiens sont pas bons pour la guerre, mais pour le vélo, ils s'y connaissent. Les Polonais, c'est bons soldats, mais pour le vélo...
Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo. Seulement, c'est pas avec la géographie que je m'en tirerais.
Bah oui.
Bah oui, qu'est-ce que je dise,
oui, bah oui, j'aime beaucoup l'expression la merde en tube.
La merde en tube, absolument. Ça peut rester. Alors, non, mais ce qui est dingue, c'est que moi, je fais un petit commentaire, j'ai le temps.
Mais vous, bien sûr.
Il y a Spielberg qui a toujours dit, vous gagnez à raconter l'histoire que vous racontez dans une petite tasse à café. Mm-hmm. Parce que du coup, si vous mettez le sucre de votre connaissance dans la tasse à café, votre café sera sucré. Si vous mettez ça dans une bassine, vous n'en sortirez pas. Et je retiens cette idée que de fabriquer des trucs dans un petit mouchoir qu'on connaît très bien, vous donne toutes les chances d'être confortable. Et les vieux de la vieille se passent entre un petit village et une maison de retraite qui s'appelle Gouillette, qui doivent être à 15 bornes qui font à pied, et c'est tout. À part ça, il y a Grangier et il y a la totalité des répliques des vieux de la vieille qui sont des perles absolues. Là, je dis bien la totalité. Il n'y en a pas une à jeter sur tout le long du film. Et c'est Audiard qui dialogue. C'est absolument époustouflant. C'est un sans faute pour moi.
Les vieux de la vieille de Gilles Grangier. Pour le personnage de série, je fais comme mon banquier. François, je reviens vers vous. Vous nous avez quand même...
D'où tu l'as sorti?
Attendez, bah oui, justement, vous n'êtes pas aussi étranger que ça à la pop culture, parce que vous nous citez l'écureuil fou de Tex Avery. Charline, cet écureuil-là est vraiment marteau. Il n'y a pas que les noisettes qui le rendent zinzin.
Non, Screwball, de son petit nom, un écureuil roux avec le ventre blanc, doté d'une très grosse truffe avec des yeux noirs. Il est très vif et il a pour tête de turc un chien de garde pas très futé nommé Meathead, qui l'assomme allègrement avec tout et n'importe quoi.
Hello. Say, are you the guy that chases the screwy squirrels that bust out of this joint?
Yeah, that's my job, that's what I do, that's my job. Chase screwy squirrels, chase them, I chase them.
Well, you better chase me then, brother, I'm better than a fruitcake.
Alexandre Astier, auriez-vous l'amabilité de demander à François Rollin pourquoi il a fait ce choix?
François Rollin, pourquoi avez-vous fait ce choix?
Alors, parce que je connais déjà pas beaucoup de séries. Je suis même pas sûr que Tex Avery, on puisse appeler ça des séries. C'était plutôt des dessins animés. Mais ce personnage d'écureuil fou me donne la patate, me défoule. Voilà, je trouve ça magnifique. Alors, c'est de la culture, évidemment. Vous êtes trop jeunes tous pour avoir connu ça. Le temps de Tex Avery, Spike Jonze, tout ça, c'est des vieilles
des génies,
références,
mais
avec un brin de surréalisme qui fait défaut souvent dans la culture contemporaine.
Bien, terminons cette pop liste avec la musique choisie par Alexandre, et cette musique, c'est celle-ci. Manic Monday, les Bangles, c'est un morceau de 86, écrit par Prince, sous le pseudo de Christopher, et non pas d'Alexandre Astier. Manic Monday, c'est parce que nous sommes Monday ou parce que vous êtes particulièrement maniaque?
Non, parce que j'ai les boules avec cette chanson. Est-ce qu'on peut pousser un coup de gueule,
bien sûr,
là?
Parce que c'est le moment ou jamais.
Attention, ça va chier.
Allez-y.
Pendant des années, j'ai écouté ce truc-là sans savoir justement que c'était de Prince, parce que je me dis, mais quand même, oui, alors effectivement, c'est de la pop californienne à mort, d'accord, mais quand même, les armes. Tout ça, il y a une recherche, il y a un truc, les cœurs arrivent au bon moment. On m'a toujours dit, mais arrête avec ta daube. Et puis un jour, j'apprends que c'est Prince qui s'est planqué pour l'écrire d'un seul coup, et d'un seul coup, on m'a foutu la paix. Alors, quand même, merde, voilà, le mot de la fin, c'est merde.
Alexandre, respire, détends-toi.
Oh, tu sais, François, c'est raide. De temps en temps, c'est raide.
Alors, je résume, messieurs, Joseph Kessel, Les Vieux de la Vieille, L'écureuil fou de Tex Avery et The Bangles. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture, et ça donne ça.
Pour une bonne marque?
Bon, la pourriture, bah, c'est comme votre vélo.
Let's go make some noise. Well, you better chase me then, brother. I'm better than a fruitcake.
Cerné par d'épaisses enceintes crénelées, Elle est vaste, solide, bâtie en force et tranquillité.
Vous m'avez l'air drôlement fort en histoire et en géo. Seulement c'est pas avec la géographie que je m'en tirerai.
Il y a un mixage que l'on doit au doigt.
Ah, c'est bien, c'est trop super.
J'adore cette idée, Antoine. J'écoute pas beaucoup de la radio non plus. Donc, je trouve cette idée de ramener comme ça quatre trucs et d'en faire un petit son, une petite bande-son, c'est génial.
Moi, j'ai une idée. Je peux
Allez-y.
La donner.
Allez, bien
et
sûr.
Si jamais vous faisiez ça sur 6, 7, 8 heures et que vous faisiez pour François Rollin une espèce de medley de toute la pop culture qui puisse se l'enfiler en une semaine comme ça d'un coup.
Une nuit spéciale.
Une nuit spéciale.
Une nuit spéciale animée, co-animée par François Rollin.
Allez.
Ok. Ah, moi, je relève Banco. Le gant. Alors ça, c'est pas fait pour me faire peur. Et c'était un remix, évidemment, signé, comme toujours, de Ghislain, Canal de Suez, Mon Coucou est cassé. Fontanus, François Rollin, Alexandre Astier, faisons un bond dans le temps pour retourner en 86 pour écouter pour de bon ce morceau choisi par vous, Alexandre, Les Bangles, écrit par Christopher, enfin Prince. Manic Monday, le choix d'Alexandre Astier dans cette émission spéciale qui lance cette semaine spéciale Kaamelott dans Pop Pop Pop. D'ailleurs, dans quel état d'esprit êtes-vous, mon cher Alexandre, à 24 jours de la sortie de Kaamelott?
Ah bah alors, moi, mon boulot est terminé là. Hein.
Là, pas tout à fait, façon, non.
Oui,
on
bah,
passe
non.
La semaine ensemble.
Oui, d'accord, mais je veux dire, le banc de montage, je l'ai plus. Enfin, je veux dire, c'est, si je l'ai, mais y a plus, ça sert à rien, le film est dehors.
C'est promis, ça.
Donc, je ne peux rien faire. Maintenant, ça ne dépend plus de moi, voyez-vous.
Voilà. Bien. Nous allons donc en parler tous les jours de la semaine de ce Kaamelott avec vous, Alexandre. Merci infiniment, François, de vous être joint à nous. François Rollin, je rappelle que votre livre « Suis-je bête ?» est à retrouver aux éditions PUF et il est indispensable, comme tous les livres de François Rollin.
Oh,
que dire de plus
et je l'embrasse, le Antoine.
Et la préface, rien du tout à voir là-dedans, la préface est géniale.
Une préface d'Alexandre Astier, un livre de François Rollin. Moi, je dis, la soirée est ouverte. Merci Charline.
Mais merci à tous.
À demain. Je signale aussi qu'il va y avoir un concert solidaire ce mercredi à l'Olympia au profit des enfants de la guerre à l'affiche du concert Alain Souchon, Angélique Kidjo, Ayo, Yael Naïm et plein d'autres. Voilà, et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Grégory Wallon qui était à la technique aujourd'hui.